Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Il faut être virtuose et d'une inlassable curiosité pour passer indifféremment et avec le même bonheur du cinéma populaire au cinéma d'auteur. Eh bien, mon invité l'est. C'est Patrice Lecomte, papa des bronzés, mais aussi réalisateur de La fille sur le pont, de Ridicule, de Tandem, de Confession trop intime, de La veuve de Saint-Pierre. Ce qui est absolument épatant, c'est que cet après-midi, il est mon invité.
Europe 1.
Bonjour Patrice Lecomte.
Bonjour Isabelle.
Alors Patrice Lecomte, vous dites, je suis rieur, c'est dans ma nature, mais moi j'aimerais savoir, au cinéma, pour réussir une comédie, est-ce que le réalisateur doit forcément avoir un talent caché d'humoriste, ou bien c'est pas comme ça que ça se joue?
Ben, c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu le sens de ça, c'est-à-dire qu'il faut, c'est pas tellement d'avoir des certitudes, mais sentir que quelque chose est drôle, que ça pourrait être plus drôle si on faisait comme si, ce sera de sentir un peu ce qui est drôle et pas drôle, c'est pas un talent du tout, mais c'est juste une attention portée à des choses qu'on aime, quoi. Et alors, ce qui est assez compliqué quand on tourne une comédie, c'est que une comédie est censée, si elle est vraiment réussie et drôle, elle est censée faire rire du monde. Or, sur un film, le
monde... Il
n'y
a pas de public.
Le public, c'est l'équipe.
Les techniciens.
Qui n'a pas le droit de rire, puisque si l'équipe se met à rire, ça fout en l'air la prise.
Voilà.
Moi, je dois dire que j'ai interrompu des prises parfois sur certains films, sur certaines scènes de films, parce que je riais, quoi. Mais je me dis, je m'en fous, personne ne peut m'en vouloir. D'abord, parce que c'est encourageant pour les acteurs de sentir que le réalisateur est en train de se gondoler et ne peut pas s'empêcher de rire. Donc j'ai interrompu des prises pour cause de fou rire. Oui, ça c'est vrai, je reconnais.
C'était sur quel film?
C'est-à-dire que sur Les bronzés font du ski, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal dans la scène avec les Savoyards quand ils mangent la fougne qui se sert à l'étaler et qu'ils boivent l'alcool de crapaud. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Et quand j'ai tourné... c'est intolérable. Quand j'ai tourné ce film qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours Une heure de tranquillité avec Christian Clavier, qui n'est pas le moins rieur du monde, loin de là, et avec Stéphane de Groot,
qui n'est pas non plus, le moins rieur du monde.
Il y a une scène avec eux deux et un plombier portugais moldo-slovaque. J'ai interrompu des prises. J'ai interrompu des prises parce que je tenais pas. En plus, comme...
Sortez le réalisateur.
Oui, mais non, on ne pouvait pas le sortir, le réalisateur, en l'occurrence, parce que comme c'est moi qui cadre moi-même
et qui
tiens la
caméra... Mais oui, vous êtes un des rares, comme Luc Besson ou Claude Lelouch, à tenir la caméra.
Et là, je voulais faire le film pour que ce soit très... Enfin, qu'il y ait du rythme. Ça, j'ai fait tout le film avec la caméra à l'épaule. Donc, si vous commencez à vous gondoler avec la caméra à l'épaule, ça fait un peu reporter de guerre, vous comprenez. Le cadre bouge et ce n'est pas possible. Donc, non, on ne peut pas sortir le réalisateur. Et le réalisateur dit coupé, je suis désolé, j'ai ri et les acteurs ne lui en veulent pas.
Vous prenez le temps à Paris de vous aventurer dans les petites salles pour vous laisser surprendre par les futurs grands du rire?
Ce serait vraiment mentir que de vous dire que je suis un découvreur de talent. Loin de là, c'est vrai que quand je vais voir Muriel Robin au Palais des Sports, quand je vais voir l'extraordinaire Alex Lutz aux Folies Bergères et que je me régale, c'est vrai que je ne découvre pas grand-chose. Je vais là où je sais que je vais aimer.
Vous dites, Patrice Lecomte, il n'y a pas d'humour gentil. Patrick Timsit dit des horreurs, mais avec une telle générosité que ça passe. Qu'est-ce que vous entendez par générosité?
C'est-à-dire que quand vous faites de l'humour, quand vous faites rire les gens, il y a forcément le don de quelque chose. Vous ne pouvez pas faire de l'humour ou vouloir faire rire les gens en pratiquant la rétention de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit généreux, il faut que ce soit abondant, il faut que ce soit... je ne vais pas commencer à balancer des noms de gens que j'aime pas parce que justement je sens qu'ils font de l'humour acide, aigre. Ils donnent pas, quoi. Et Patrick Timsit, c'est un très bon exemple. Il balance des horreurs mais avec une telle bonne humeur, une telle générosité que ça passe, je trouve, parce que c'est les comiques aigres, vachards, arrogants aussi qui m'amusent pas, quoi. Ça m'amuse pas.
Mais alors, par exemple, personne n'est allé plus loin que Blanche Gardin dans l'humour noir transgressif. Elle vous impressionne, sa liberté de ton?
Blanche Gardin a vraiment fait... Enfin, je ne veux pas dire que c'est devenu son fond de commerce, mais c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est vrai qu'elle a dit des horreurs inouïes, quoi. Heureusement
qu'il y a une fille. Qui ont peut-être encore plus de résonance parce que ça sort de la bouche d'une femme.
Alors, je pense que les mêmes horreurs, appelons ça les horreurs, mais pas avec un H majuscule non plus, mais ces mêmes horreurs seraient débutées par un comique homme, ça ne passerait pas. Je pense que entre
ah oui.
Ah, je crois pas. Non. Ce serait affreux. Mais elle, en plus, elle est balèze parce que elle a un côté bon chic, bon genre, comme ça. Elle est pas trash du tout. Donc d'avoir une fille avec un physique de première communiante qui dit des trucs sur la fellation, enfin c'est quand même à mourir de rire. Mais d'une certaine manière, Nora Hamzaoui que j'aime énormément, oui, elle dit aussi des choses dingues, quoi. Mais les filles, elles sont balèzes, hein.
Bon, alors, vous avez évoqué parmi vos comiques préférés Alex Lutz. Effectivement, alors là, c'est un registre tout autre, puisque chez lui, l'humour épouse une sorte de poésie surréaliste. Vous êtes allé voir son film, Guy ?
Oui, je suis allé voir le film de Lutz, Guy, qui était un film assez impressionnant, je dois dire. Mais impressionnant parce qu'il y a... Il y a un pari, un concept, comme on dit chez Télérama, qui est tellement original et tellement fort. Je me suis dit, en voyant le film au début, je me suis dit, ça ne tiendra pas une heure et demie. J'étais un peu pessimiste, défaitiste en tout cas. Et puis en fin de compte, je me suis trompé.
Eh bien, vous êtes trompé, absolument. On se retrouve tout de suite avec Patrice Lecomte.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Cher Patrice Lecomte, votre papa était fou de cinéma. Et vous avez grandi à Tours, où chaque année, tous les deux, vous suiviez assidûment un festival de courts-métrages très réputé à l'époque. Il paraît d'ailleurs que votre père, qui était médecin, se mettait en congé pendant toute la durée de ce festival. Bon, en fait, vous avez fait le métier dont peut-être secrètement rêvait votre père cinéphile.
Je ne sais pas si mon père aurait aimé être lui-même cinéaste. Je ne crois pas du tout. Il était à Caen, famille normande. Il a fait ses études de médecine, donc il voulait être médecin. Et il a été médecin. Mais c'est vrai que sa passion, c'était le cinéma. Et alors, de ce que vous disiez du festival du court-métrage de Tours, qui, rassurez-vous, ne durait pas trois semaines, donc il ne se mettait
parce
pas
parce que pour ses patients...
Il ne rayait pas ses rendez-vous pendant trois semaines, mais il rayait les trois jours, je crois que c'était vendredi, samedi, dimanche, ou c'était quatre jours à tout casser. Ce festival m'envoyait plein de films, puisque par définition, les films étaient courts, c'était des courts-métrages. Mais il faisait mieux que ça.
Il faisait quoi ?
Eh bien, il me faisait un mot pour me permettre de ne pas aller au lycée.
Mon Dieu, il allait jusque-là ?
Oui, il allait jusque-là. Alors, je ne sais pas si c'était pour m'inculquer, me communiquer son goût du cinéma, mais il était très, très tolérant. Il me disait, le festival du court-métrage, tu vas voir, c'est formidable. Et je lui disais, bon, il y a un bon programme vendredi après-midi. Est-ce que tu crois que je pourrais sécher le lycée ? Il me faisait un mot.
C'est merveilleux. Bon, quel cinéma votre père s'est-il employé à vous faire découvrir à l'adolescence ? Alors, en dehors de ce festival de court-métrage, vous alliez avec votre père dans les ciné-clubs ?
À Tours, donc, que vous avez cité, on allait beaucoup dans les ciné-clubs, dans le ciné-club de Touraine qui existait. On y voyait des films que j'étais sans doute trop jeune, trop gamin pour apprécier à leur juste valeur.
Mais il reste toujours quelque chose, quand
oui,
même.
Oui, et puis surtout, il reste l'envie de revoir ces films qu'on n'a pas su apprécier parce qu'on était trop petit. Et puis, j'allais voir le cinéma dit normal, le cinéma actuel. C'est-à-dire, j'allais voir des films de Jerry Lewis, j'allais voir des films avec de Funès, j'allais voir des films plus sérieux. Et surtout, aussi et surtout, c'était les premiers films de la Nouvelle Vague. Oui, c'est-à-dire que c'était les premiers films de Chabrol, de Truffaut, de Godard, bien sûr, etc. Et ça a été, j'ose pas dire très formateur, mais ça a été assez déterminant quand même.
Oui, ça vous a en fait encouragé à vous emparer vous-même d'une caméra, puisque soudain on pouvait faire du cinéma autrement. Et il a jamais rechigné d'ailleurs à vous prêter sa caméra 8 mm et puis sa 16 mm pour que vous bricoliez des morceaux de film, votre père. Votre admission à l'IDEC, l'école de cinéma rebaptisée la FEMIS, elle a fait sa joie à votre père, mais c'est pas l'IDEC en fait, Patrice Lecomte, que vous avez réellement appris le métier de cinéaste.
C'est-à-dire que l'IDEC, qui n'a pas été que rebaptisée FEMIS, la FEMIS est une école tout à fait différente, c'est devenu une très bonne école. L'IDEC, c'était un vieil institut très poussiéreux, l'Institut des hautes études cinématographiques, je n'y ai rien appris.
Ah, carrément ?
Ah ben, que dalle. Mais rien appris que je ne sache déjà, c'est un peu prétentieux, mais c'est vrai. Mais c'était important pour moi de postuler à l'IDEC, c'est un concours, il y a très peu de places, beaucoup de candidats. Mais d'être reçu à l'IDEC, ça me donnait une bonne raison, vis-à-vis de ma famille et vis-à-vis de moi-même aussi, ça me donnait une bonne raison d'être à Paris. Si je n'avais pas fait l'IDEC, j'aurais dit à mes parents, quoi.
Vous seriez resté tourangeau.
Je monte à Paris, je vais faire du cinéma. Ben non. Alors quand j'aurais dit je vais à Paris, je voudrais faire le concours de l'IDEC, ils ne m'ont pas empêché, bien sûr que non. Et quand j'aurais dit je suis reçu, ils étaient fous de joie. Mon père surtout, mais pas que. Enfin, mon père était ravi, oui.
Alors, vous dites que le cinéma, c'est un art voyou qui emprunte à tous les arts. Un cinéaste doit être un peintre, un conteur, un cadreur. Il faut savoir faire mille choses.
Il faut être romancier, musicien.
Oui,
alors, on n'est pas obligé d'être musicien, on n'est pas obligé d'être peintre, mais il faut avoir un minimum, voire un maximum, de culture un peu dans toutes ces expressions artistiques, bien entendu. C'est-à-dire que en étant cinéaste, il faut aller voir les films des autres, déjà, bien sûr. Mmh. Mais il faut aller fréquenter les expositions, savoir pourquoi un tableau nous plaît. Il faut lire, il faut écouter la musique, se faire l'œil, l'oreille, le goût.
Cadrer la vie, en fait. Recadrer la vie.
Mais là, vous avez raison. Et c'est en fait la base même de notre métier. Et c'est pour ça que je l'adore. Il faut se faire l'œil. C'est-à-dire les grands cinéastes ont tous un regard, un œil qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas le mien, qui est le leur. La personnalité du regard, de l'œil, c'est quelque chose de très important. Et quand vous voyez un film de merde, c'est souvent parce qu'il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de personnalité de l'œil.
Pourquoi vous retrouve-t-on pendant 4 ans, Patrice Lecomte, de 70 à 74, au journal Pilote, où vous dessinez des planches de BD? Le cinéma, à cette époque, était un fantasme qui s'évanouissait en douceur?
Le fantasme ne s'évanouissait pas, mais j'avais fait l'école de cinéma, donc les 2 ans de DIDEC, et j'étais très très fan de bande dessinée. Il y avait un magazine qui s'appelait Pilote, dans lequel travaillaient Gottlieb, Goscinny et plein d'autres, Bretéché, ensuite, bref. Et j'avais fait la connaissance de Gottlieb parce que j'adorais ses pages de bande dessinée. La rubrique à braque, c'était vraiment à mourir de rire. Et on était devenus assez copains.
Et un jour, il vous a dit « Pourquoi tu ne bosserais pas à Pilote ?»
Non, ça s'est passé exactement dans le sens inverse. C'est qu'un jour, un rendez-vous amical, j'ai amené des dessins que je faisais parce que j'ai toujours aimé dessiner, très autodidacte, mais très passionné. Et il a trouvé les dessins intéressants. Il m'a dit « Je vais montrer à Goscinny qui dirigeait Pilote. » Et Goscinny m'a dit « Venez travailler au journal, jeune homme. » Donc ça s'est fait comme ça, mais je n'avais pas prévu le coup. Et donc, il y a eu cette parenthèse assez enchantée de 5 ans à travailler, à faire la bande dessinée au magazine Pilote.
Alors, le premier à être passé de la BD au cinéma, c'est Gérard Lozier. Ensuite, il y a eu Enki Bilal, Marianne Satrapi, Pascal Rabaté, bien sûr, Johan Sfar. En fait, avoir un passé de dessinateur de BD, c'est un cursus assez propice au cinéma, hein, parce qu'on rédige des storyboards et puis surtout, on inscrit des images dans des cadres.
Oui, vous avez raison. C'est juste, moi, je suis un adolescent qui a toujours rêvé du cinéma et qui a connu cette parenthèse dessinée dans la bande dessinée, contrairement à Bilal et tous ceux que vous avez très justement cités, qui, eux, sont des personnes qui ont fait leur réputation dans la bande dessinée et, un beau jour, se sont mis à faire des films, ce que je trouve tout à fait louable, évidemment. Moi, la bande dessinée, même si elle était plus précaire, enfin plus autodidacte que les gens que vous avez cités, la bande dessinée m'a beaucoup appris, moi. En termes de cadre, de dessin, d'inscrire les choses dans un rectangle, mais aussi et surtout en termes de scénario. C'est-à-dire qu'une bande dessinée, vous ne pouvez pas passer du temps, vous ne pouvez pas raconter des choses inutiles.
Donc ça vous apprend, en fait, les ellipses, par exemple.
Ça m'apprend les ellipses, la concision, savoir s'en tenir à l'essentiel. Ça m'a appris aussi, parce que les bandes dessinées que je faisais étaient censé faire rire, et donc ça m'a appris. Ça m'a formé une tournure d'esprit, ça a affiné un peu les choses, oui, c'est sûr.
Et voilà les mille vies de mon invité qui circule entre bande dessinée, cinéma, littérature. J'ai 1000 questions à lui poser. Alors, on retrouve tout de suite Patrice Lecomte.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Mais que c'est sympathique de pouvoir agiter les souvenirs comme ça cet après-midi en compagnie de Patrice Lecomte. Cher Patrice Lecomte, votre tout premier long-métrage aurait pu définitivement vous faire renoncer au cinéma, pas parce que le film était raté, mais parce que son tournage fut une guerre, un enfer, un cauchemar orchestré curieusement par le plus délicieux des hommes avec lequel ensuite vous ferez 7 films. Comment Jean Rochefort, puisqu'il s'agit de lui, comment Jean Rochefort a-t-il pu, au cours de votre toute première expérience de réalisateur, vous n'aviez que 26 ans hein, à l'époque, comment a-t-il pu être pire qu'odieux avec vous? Et surtout, pourquoi?
Pourquoi je sais un peu pourquoi. J'avais pas d'attitude odieuse, je me prenais pas pour Dieu le Père, je faisais mon film, le film, c'était bien entendu, j'avais le film bien en tête.
Mais le TVC était fermé de l'intérieur.
Oui. Absolument. Mais il m'a pris pour un jeune blanc-bec, un incapable. J'ai dû commettre des tas d'erreurs de premier film, mais il y a des gens qui sont tolérants, bienveillants et qui vous pardonnent vos erreurs, de vos balbutiements. Je balbutiais pas, mais j'ai dû faire des bêtises. Mais lui, il m'a rien laissé passer. C'est-à-dire qu'il m'a...
Alors, il paraît par exemple qu'au cinquième jour de tournage, Rochefort vous a annoncé « Patrice, tu ne m'adresses plus jamais la parole. Jamais. Je suis anéanti d'avoir signé un film avec toi. » C'est quand même pratique quand il reste à peu près un mois et demi à tourner.
C'est-à-dire que ça ne donne pas des ailes. Et j'ai été, sur le tournage de ce film, plongé dans un truc très bizarre. Ce truc très bizarre, c'est le rêve interrompu. Je veux dire par là que depuis que j'étais enfant et encore plus adolescent, monté à Paris, IDEC, machin, brrr, le cursus, les courts-métrages, vous avez un rêve incroyable qui miroite comme c'est pas permis, qui scintille, c'est de faire un premier long-métrage et puis après d'en faire
avec
plein.
Avec un casting qui manque pas de relief.
Oui, inespéré, connu Jean Rochefort et quelques autres.
Et quelques autres, Roland Dubillard, par exemple.
Roland Dubillard.
Voilà. Et le film coécrit avec Gottlieb.
Qu'on avait écrit avec Gottlieb. Donc, vous accédez à ce rêve, puisque vous tournez votre premier long-métrage, et vous vous rendez compte, au bout de quelques jours de tournage, que ce rêve est en train de s'écrouler. Et ça, c'est très bizarre parce que vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout parce qu'il n'est pas question d'abandonner un rêve en cours de route. Enfin, de dire, bon, ben voilà. Mais ce qui est terrible, c'est que j'ai continué à faire ce film en me disant en permanence, je me suis trompé de rêve. C'est-à-dire que quand vous rêvez...
Jean Rochefort a failli vous faire penser que vous n'étiez pas, en fait, équipé pour ce métier de cinéaste.
Jean Rochefort est responsable de quelque chose de beaucoup plus grave, Isabelle, c'est qu'il a failli faire en sorte qu'on ne fasse jamais connaissance, vous et moi, parce que je ne serais jamais devenu cinéaste, et donc vous ne m'auriez jamais invité.
Mais pourquoi vous avait-il pris en grippe?
Mais parce que, alors, à ce moment-là de sa vie, je crois que ça n'allait pas très fort. Il n'était pas totalement épanoui dans sa vie privée. Ça ne me regarde pas, mais c'est comme ça. Et puis, il s'est rendu compte, je crois, au-delà des erreurs que je pouvais commettre, ça c'est une chose, j'ai ma part de responsabilité, mais il s'est rendu compte que Coluche allait tirer son épingle du jeu, que c'était lui l'Auguste, et que lui, Jean Rochefort, était une espèce de clown blanc, comme une espèce de faire-valoir d'un comique en devenir. Enfin, qui n'était pas en devenir, qui était déjà devenu. Donc il y avait un porte-à-faux, quelque chose sans doute de déséquilibré, d'inconfortable pour lui. Est-ce qu'il s'est retrouvé le cul entre deux chaises et qu'il me l'a fait payer? Je ne sais pas trop, mais...
Et Coluche, comment gérait-il cette mutinerie de Rochefort?
Coluche, il avait décidé d'être sympa avec tout le monde, donc il ne choisissait pas son camp. Il voyait bien que je morflais gravement, il me soutenait un peu, mais il ne me montait pas non plus contre Jean Rochefort, il n'y a pas besoin, j'étais déjà assez remonté tout seul. Mais c'est curieux quand même, avec le recul... de constater ça, ce métier que j'aime tellement faire, j'aime tellement faire des films, de penser qu'à cette époque-là, en 1974, donc, quand j'ai fait ce premier film...
Tout a failli capoter.
Tout a failli capoter, mais j'allais au tournage comme un chat qu'on fouette. C'est-à-dire que je me disais vivement vendredi soir que j'ai le week-end pour me requinquer, et vivement la fin de ce putain de tournage de bordel de merde.
Mais alors, Patrice
Lecomte...
Je ne
sais pas si j'employais exactement ces mots-là, mais c'était pas loin.
Ils sont bien signifiants. Il faut maintenant que vous nous expliquiez, 11 ans plus tard... Pourquoi et comment vous y êtes pris pour proposer à Jean Rochefort, donc, après une telle expérience, le rôle principal de Tandem, le film qui a tellement compté dans votre filmographie, car vraiment, à ce moment-là, on a pris la mesure de votre capacité à signer des films d'auteur.
Non, mais rassurez-vous, je ne suis pas maso du tout. Et je ne me suis pas dit, tiens, je vais refaire un tour avec Jean Rochefort pour en prendre encore plein la tronche. Non, du tout, du tout. Mais j'aimais beaucoup cet acteur, malgré ce qu'il m'avait fait vivre, ce que j'avais subi. Je l'aimais beaucoup parce que je le voyais dans les films des autres et que je le trouvais formidable, quoi. Mais on ne s'était jamais revus, jamais reparlé.
Vous ne vous étiez jamais recroisés?
Non, jamais.
Alors, comment l'avez-vous abordé 11 ans plus tard?
Ben, je l'ai abordé parce que je pense, ce n'était pas la raison affichée, mais je pense que secrètement, confusément, j'avais envie de lui prouver qu'il s'était trompé sur mon compte et que je n'étais pas le jeune branleur incapable qu'il imaginait, que j'étais un... Enfin, je voulais lui dire que j'étais un type bien, quoi. C'est nul, ma femme. Bon, c'est la fierté quand tu nous tiens.
Non, donc, c'est attendrissant. Et en plus, il s'agissait presque d'effacer une tâche.
Oui, mais alors, même si après Tandem, j'ai fait 6 films avec Jean, donc 7 films en tout, la tâche n'a jamais été détachée, la cicatrice ne s'est jamais totalement refermée. C'est curieux, on était devenus très amis, on se téléphonait, on se faisait confiance, mais il y a tout le temps, la cicatrice a toujours été là, quoi. Maintenant, on n'en parle plus.
Alors, vous dites effectivement, il y a eu bien d'autres films avec Jean Rochefort. Ensuite, il y a eu Le mari de la coiffeuse, il y a eu Tango, il y a eu Les Grands Ducs, Ridicule. Il y a eu L'homme du train avec Johnny. Johnny qui vous avait demandé à être filmé par vous. Bon, en tout, 7 films avec un même acteur, c'est pas anodin. Est-ce qu'il est vrai, Patrice Lecomte, que sur le tournage des Grands Ducs, en observant Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort jouer, Philippe Noiret vous avait confié à l'oreille oh, « Vous voyez, Patrice, tous les deux ont quelque chose que moi, j'aurais jamais. Ils ont la folie. »
C'est vrai, bien sûr.
Il vous a dit ça, Noiret ?
Il m'a dit ça et il avait, non pas les larmes aux yeux, mais il avait une réelle émotion dans sa voix. Et il ne m'a pas dit ça, il m'a dit ça en catimini, il m'a dit ça que à moi. J'étais là avec la caméra, il était à côté de moi, il regardait ses deux copains jouer de manière tellement hirsute, barrée, avec un lâcher de rampe formidable.
Ouais, un lâcher de rampe.
et lui, Philippe, acteur TNP, Monique Chaumette, acteur plus installé, une espèce de bourgeois baron du cinéma, il avait l'impression de ne pas avoir la folie de ses copains. Alors qu'il en avait d'autres, des folies. Il avait d'autres zones d'ombre, il avait d'autres zones hirsutes. Mais il admirait beaucoup Rochefort et Marielle en me disant, eux, ils ont la folie, moi, je ne l'ai pas et je ne l'aurai jamais. Et alors, vous êtes là avec la caméra, vous dites, mais Philippe, il ne faut pas dire ça. Bien sûr, vous êtes aussi fou que vos amis, rassurez-vous. Mais je comprenais ce qu'il voulait dire.
On retrouve tout de suite Patrice Lecomte.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Alors, cher Patrice Lecomte, personne n'est passé comme vous avec autant de fluidité du film archi-populaire au film d'auteur. Votre filmographie va des Bronzés à La fille sur le pont avec Vanessa Paradis, de Viens chez moi, j'habite chez une copine à L'admirable veuve de Saint-Pierre avec Juliette Binoche. Puis je pourrais citer bien d'autres grands écarts comme ça. Or, un jour, le producteur Christian Fechner, avec qui vous avez expérimenté succès et échec, vous a dit on pourrait lister les raisons pour lesquelles un film marche, et bien ce seraient exactement les mêmes raisons pour lesquelles un autre film n'a pas marché. Il y a vraiment...
Ce n'est pas les mêmes raisons pour lesquelles un autre film n'aurait pas marché. C'est-à-dire qu'un film, il est comme il est. Il est terminé. Le film sort. Le film est un succès. Ce même film aurait très bien pu être un échec.
Est-ce que Fechner... Dans un autre timing ?
Non, oui, enfin bon, c'est fragile. Et moi, je ne crois pas qu'un film est un échec parce qu'il sort le 12 mars et que s'il était sorti le 24 avril, il aurait été un succès. Moi, je ne crois pas à ces trucs-là. Mmh. L'envie d'un film ou la non-envie d'un film, c'est quelque chose qui est écrit quelque part sur les nuages à l'encre sympathique, j'en sais rien, mais le public ne s'y trompe jamais. Mais ce que m'avait dit Fechner et qui m'avait vraiment frappé, et je m'en souviendrai toute ma vie, il m'a dit, voilà, votre film... Il ne marche pas. Et donc, on dit il ne marche pas parce que ceci, parce que cela, parce que ceci et cela. Et s'il avait marché, on aurait pu invoquer exactement les mêmes raisons du succès. C'est-à-dire qu'un film ne marche pas parce qu'il est trop différent. Et si le film avait marché, on dit il a marché parce qu'il est très différent, etc. etc. Et il avait raison. Il avait raison.
Donc, on est dans du flou parfait. Alors, effectivement, vous dites au cinéma, on travaille à l'aveugle. Un film réussi provient souvent d'une sorte de miracle qui se produit à votre insu. La différence entre un film réussi et un film raté, elle est infime. Vous pensez auquel, par exemple ?
Mais je pense à tous les films que j'ai pu faire. Il y a deux choses, en fait. C'est-à-dire que le film que vous faites, déjà, il faut idéalement qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au film que vous vouliez faire, au film que vous aviez en tête. Le film ne vous a pas échappé. Il ressemble... Parfois, il est mieux, par la grâce des acteurs, etc.
Oui, mais vous ne faites pas confiance aux films qui vous surprennent. Je parle de ceux que vous faites.
Hein. Oui, mais je suis toujours surpris d'arriver à faire ce que j'ai en tête. Je trouve ça tellement difficile que je me surprends moi-même, tout seul. Mais je sais très bien que certains films que j'ai pu faire m'ont échappé en partie, mais les films qui ne m'ont pas échappé, je peux dire, au moins, eh ben voilà, ça ressemble à ce que je voulais faire. Mais ce n'est pas pour autant que le film est bon. Et c'est encore moins pour autant qu'il va plaire aux gens.
Ouais.
Après, alors là, au moment où le film vous échappe, c'est quand il est sur les écrans et qu'on va voir ce qui va se passer.
Alors justement, vous évoquiez à l'instant l'intérêt, la curiosité, la gourmandise ou non gourmandise du public pour le sujet et les acteurs. Par exemple, Une chance sur deux. Voilà, ce film qui a réuni Delon et Belmondo 30 ans après Borsalino. C'était une idée, une envie du producteur Christian Fechner. Fechner était persuadé que ça ferait un carton. Ça a été un échec et vous dites, si on avait fait un sondage auprès du public, eh ben on n'aurait pas fait ce film. Delon et Belmondo réunis 30 ans plus tard, on peut dire, j'ose à peine sortir la formule, mais que le public s'en contrefichait.
Oui, j'ai bien peur que vous ayez raison. Et en tout cas, c'était une fausse bonne idée. Quand Fechner m'a annoncé ça, en me disant qu'il avait envie de faire ça, qu'il voulait le faire avec moi, moi j'ai trouvé que c'était une idée formidable de retrouver ces deux-là, ces deux acteurs-là, puis que moi je fasse un film avec eux deux d'un coup. Enfin, c'était c'est comme l'enfant au pied du sapin. Vous avez l'impression que ça clignote de partout, tellement c'est enthousiasmant. Mais c'est vrai que si on avait fait un sondage... Puisque l'on sait que l'essentiel du public, c'est les 18-30 ans, quoi. Enfin, c'est des gens jeunes, et que ces jeunes gens, ils s'en foutent un petit peu.
C'est vraiment la majorité, les 18-30
oui,
ans.
Oui, ça change un peu en ce moment, mais c'est une autre conversation. Ça change un peu. Le public adulte revient volontiers au cinéma, donc il faut leur faire des films. Donc il y a de l'espoir de ce côté-là.
Mais c'est
vrai que Delon-Belmondo, sur les 20-25 ans, ils s'en fichent un peu, quoi. Et c'est dommage. Et la meilleure preuve, si tant est qu'on soit obligé de fournir des preuves, la meilleure preuve, c'est que quand le film est passé quelques années plus tard en prime,
sur la télé, il a fonctionné.
Il a fait un carton formidable, parce que c'est le film idéal du dimanche soir pour la télévision.
Voilà.
Mais au cinéma, non, ça n'a pas été mirobolant, non.
Alors, ce qu'il y a d'assez redoutable, Patrice Lecomte, c'est cette espèce de permis à points virtuel qui existe pour les cinéastes, n'est-ce pas ? Un cinéaste qui, par malheur, alignerait deux ou trois films sans succès n'a plus du tout le droit de tourner, même si sa contribution au cinéma est vraiment de qualité. Il y a beaucoup de grands noms comme ça qui restent sur le bord du fleuve ?
Ah oui, oui, des gens qui restent sur le banc de touche, il y en a beaucoup. Et on ne va pas assombrir à la fin de cette émission, mais je fais partie de ces gens-là.
Bon, alors ça fait 6 ans que vous n'avez pas tourné de film.
Que j'ai pas pu tourner.
Voilà, mais effectivement, on va tout de suite en parler. 6 ans, c'est une petite éternité pour un fou de cinéma qui a tant de projets dans la tête. D'ailleurs, 4 projets très avancés avec casting, producteur et repérage sont tombés à l'eau. Vous étiez prêt à les réaliser. Pourquoi ça s'est pas fait ?
Ça s'est pas fait pour des raisons de financement qui se trouvent pas. C'est-à-dire que les producteurs qui s'intéressent à mes projets, ils existent ces producteurs-là, puis ils sont enthousiastes, ils y croient, on y va, on fonce. Mais on est obligé de travailler avec des partenaires qui sont les chaînes de télévision, les distributeurs, les Sofica, enfin tout ce grand business financier, et qu'on tombe de plus en plus sur des gens qui sont un petit peu frileux, qui sont devenus frileux. Et sans tomber dans le fameux « c'était mieux avant » qui est un truc de vieux schnock, c'est vrai que des films que j'ai faits, je ne pourrais plus les faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arriverai chez
La fille sur le pont, par exemple.
Ma fille sur le pont, non, mais je ne pourrais pas faire Marie la coiffeuse. Ces films-là, je ne pourrais plus les faire. On ne me laisserait plus les faire.
Bah alors, attendez, je voudrais savoir comment François Ozon peut tourner France, qui est un film en noir et blanc, dont la moitié est en allemand, avec des acteurs inconnus autour de Pierre Niney.
Bah, il faut lui poser la question à lui, parce que je trouve que c'est un très bon exemple, et je me réfère souvent à lui en me disant Ozon, il arrive à tourner des films... gonflé, culotté, grâce à Dieu, c'est pas un film facile, son dernier film en date, et c'est effectivement France, c'est un film en noir et blanc, et qui parle allemand, enfin c'est...
Et là, les chaînes de télé l'ont suivi.
Ben, il faut croire, puisqu'il a réussi à faire ces films-là, moi je sais pas si c'est moi qui me démerde mal, ou si c'est mes producteurs qui sont mous de la gâchette, ou je sais pas quelles sont les raisons, mais c'est vrai que depuis 6 ans, j'ai rien pu tourner. Et 6 ans, c'est très très long. Et comme j'ai plus exactement 22 ans, c'est d'autant plus long et c'est du temps perdu d'autant plus navrant. Mais c'était des beaux projets, les projets qui sont tombés à l'eau.
Il y a eu par exemple, un film écrit sur mesure pour Alain Delon qui devait être son dernier film. Et puis il y a eu aussi un scénario d'auteur très poétique qui se déroulait une nuit dans Paris pendant la guerre. Vous y teniez beaucoup d'ailleurs
à ce
sujet.
Beaucoup de films.
Mais c'est partie remise.
Non,
en
c'est pas partie
deuxième.
Remise. Non, parce que je ne crois pas que les... Enfin, c'est mon attitude à moi. Quand un truc ne se fait pas, je ne suis pas fataliste non plus, mais quand un truc ne se fait pas, je me dis c'est peut-être qu'il ne devait pas se faire. Et que d'y croire à tout prix, d'essayer de le faire à tout prix, de réactiver, de réallumer le feu sous la marmite, etc., ce n'est pas mon attitude. Quand ça ne se fait pas, alors je mets ma main comme ça sur la table, et je fais table rase et je repars à zéro sur autre chose.
Patrice Lecomte, vous
avec
avouez...
la mort dans l'âme. Hein.
Vous avouez, en 40 ans de carrière, j'ai réalisé une 30aine de longs-métrages et j'ai dû en abandonner autant. Donc, la filmographie qu'on trouve dans Wikipédia n'est pas exactement celle qu'il y a dans votre cœur, c'est ça ? Il y a tous les films fantasmés.
On ne fait pas des films pour un seul spectateur,
certes.
Surtout pas pour soi-même. Mais en l'occurrence, les 30 films que je n'ai pas faits, c'est à peu près ça la proportion. J'en ai fait autant que de films qui sont tombés à l'eau.
C'est comme ça pour tous les autres cinéastes ?
Je ne sais pas. Tous les cinéastes connaissent des projets qu'ils n'arrivent pas à mener à bien, dont ils n'arrivent pas à trouver le financement, bien sûr. Non, je ne suis pas plus malheureux qu'un autre. Hein, mais c'est dans ces 30 films qui ne se sont pas faits et qui peut-être ne devaient pas se faire, c'est possible, il y avait des projets formidables. Tant pis.
On retrouve tout de suite Patrice Lecomte.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Patrice Lecomte, qu'y a-t-il de si précieux et si irrésistible dans les mémoires de Groucho Marx pour que vous en ayez fait l'un de vos livres de table de chevet préférés ?
J'ai une admiration sans borne pour Groucho Marx, de ce qu'il était dans les films, mais ce qu'il était dans la vie, les émissions de télévision, le sens de la répartie. Toutes ces choses qu'il arrivait à dire, un, parce qu'il avait un humour fou, deux, parce qu'il était Groucho Marx et qu'il pouvait se permettre de le dire. Alors, des merveilles de phrases à l'emporte-pièce, il y en a des tonnes et des tonnes, mais la plus balèze, et moi, je brûle l'impatience de trouver la soirée qui me permettra de la ressortir. Mais j'ai jamais eu...
Attendez, là, par exemple, sur l'antenne d'Europe 1, en ce moment, allez-y.
Là, par exemple. Alors, oui. Voilà, c'est un exemple, mais je ne le pense pas. Hein. Merci Isabelle, j'ai passé une très bonne émission, mais ce n'était pas celle-ci. Et il a dit ça un soir, oui. Il sortait d'une soirée, d'un dîner, oui. Et il a dit à la maîtresse de maison sur le pas de la porte, « Bonsoir madame, j'ai passé une excellente soirée, mais ce n'était pas celle-ci. » Moi, ça, je trouve ça,
c'est
merveilleux. Chic quand même.
Bah oui, formidable. Alors, Groucho Marx, il est né à une époque où le cinéma n'existait pas. Il est né en 1890 et il est mort en 77 à Los Angeles. Et les Marx Brothers...
Il est mort à une époque où le cinéma n'existait plus. J'ai eu peur que vous disiez ça.
Je me suis arrêté avant. Et les Marx Brothers ont enchanté Hollywood entre à peu près 1935 et 1957. Vous auriez aimé, Patrice Lecomte, faire des films à l'époque de l'âge d'or de Hollywood?
Ah, à l'époque de l'âge d'or de Hollywood, oui, ça m'aurait botté. Pas uniquement faire des films avec les Marx Brothers, parce que je pense
non,
que
c'est... Non, bien sûr, mais je parle...
Il rendait fou les... Mais...
Voilà, de la production hollywoodienne à son âge d'or.
C'est-à-dire que, quitte à travailler à Hollywood, j'aurais préféré travailler à l'époque de l'âge d'or qu'aujourd'hui, où c'est la fin du monde dans tous les films, où des monstres ou des aliens menacent le globe, et les effets spéciaux, en veux-tu, en voilà, se tartinent comme un club sandwich. Non, c'est le cinéma américain, hollywoodien en tout cas, avec les Marvel Comics, les super-héros, les super-pouvoirs, ça me gave, mais à un point que vous n'imaginez pas. En revanche, l'âge d'or d'Hollywood, les stars, les actrices, les scénarios, le noir et blanc sublime...
Alors, qui auriez-vous aimé filmer tout à l'heure, hors antenne? Je parlais de cette scène dans La fille sur le pont avec Vanessa Paradis, que vous avez cadrée en portant donc, la caméra dans ce long monologue hypnotique si réussi. Et je vous imagine tendant la caméra vers Vanessa comme un calice, justement. Qui auriez-vous aimé filmer, star hollywoodienne disparue?
J'aurais adoré faire du cinéma avec Catherine Hepburn.
Oui.
Je trouvais qu'elle avait l'élégance et l'humour.
L'impertinence, oui.
Oui. Et je pense qu'une des plus belles femmes du monde, en tout cas de cette époque-là, c'est Rita Hayworth. Elle était d'une beauté à tomber par terre. Elle dansait comme c'est pas
perdu. Divinement, je l'ai revue sur mon iPhone danser.
Et avec une sensualité. Et en plus, ce qui me plaisait beaucoup chez elle, mais chez Catherine Hepburn aussi, enfin, et Audrey Hepburn, c'est un peu plus tard, toutes les Hepburn. Ce qui me plaisait beaucoup, follement, chez elle, c'est que elle ne semblait pas vénéneuse. Oui, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y avait des stars hollywoodiennes, quand je dis vénéneuse, on sentait qu'il y avait quelque chose de possiblement toxique.
Comme Joan Crawford.
Par exemple, très bon exemple. En revanche, Rita Hayworth, elle avait une espèce de santé, de plaisir à faire les choses. Quand on la voit
une
danser,
santé rafraîchissante.
Oui,
voilà.
Quand on la voit danser et chanter aussi, mais danser surtout, elle y prend tellement de plaisir que c'est communicatif. C'est une femme, peut-être c'était une femme de très mauvais caractère, de mauvaise compagnie, mais
c'est pas
adoré.
Ce qui, en fait, transparaît à l'écran. Alors, on parle du cinéma américain, de l'âge d'or, mais vous êtes allé, Patrice Lecomte, donner des masterclass aux États-Unis, à l'université de Columbia. Les étudiants américains, qui seront les futurs Scorsese ou les prochains frères Cohen, connaissent bien votre filmographie?
Mais ils connaissent, certains de mes films sont sortis aux États-Unis, notamment Monsieur Hir, La fille sur le pont, Ridicule et quelques autres films. Oui. Et effectivement, les étudiants dans les écoles de cinéma, s'ils m'invitent pour faire des masterclass, c'est parce qu'ils ont vu ces films-là et qu'ils ont envie qu'on s'en parle.
Mais alors, quelle scène, par exemple, quel plan vous ont-ils demandé de commenter, peut-être pour livrer vos secrets de fabrication ?
Ouais, c'était assez marrant parce que ce qui les intriguait beaucoup, c'était les lancers de couteaux dans La fille sur le pont. Ils voulaient savoir comment on avait fait. Parce qu'eux font partie d'un pays qui...
Oui, ils savaient que Daniel Auteuil n'était pas un lanceur de couteaux professionnel.
Non. Et que Vanessa Paradis n'avait pas risqué sa vie non plus. Donc de leur raconter que comment, avec les moyens du bord, presque des moyens de Georges Méliès, quoi. On avait lancé le couteau sur Vanessa Paradis.
Bah alors, dites-nous. On veut savoir, comme les étudiants de l'Université de Columbia, on n'a pas le droit de savoir.
Non, c'est assez simple. J'avais dit simplement à Vanessa, n'aie pas peur, et à Daniel, fais bien attention.
Vous êtes un voyou. Bon, Patrice Lecomte, jamais en France, la FEMIS ne vous a demandé ce genre d'exercice, faire des masterclass pour les étudiants ?
Non, curieusement, enfin, c'est pas un appel d'offres non plus, mais enfin, curieusement, quand j'ai du temps, moi j'ai aimé rencontrer des étudiants de cinéma. J'ai été le parrain pendant 2 ans de la 4e, 5e promotion de l'école de cinéma de Luc Besson à la Cité du cinéma, là-haut, oui. Du côté de Saint-Denis. Et Luc Besson, qui est un ami, m'avait dit « J'aimerais beaucoup que tu sois parrain. » Et je me suis régalé parce que j'y allais tout le temps, très souvent, le plus souvent possible, pour les rencontrer, voir leurs travaux, commenter avec eux, etc. Ça m'a vraiment botté, ça. Et la FEMIS ne m'a jamais demandé « Mais je ne dois pas être, un cinéaste fémicien. »
Bon, en 2011, Patrice Lecomte, un peu comme un défi d'amoureux et conduit, eh ben vous avez publié un bouquin qui avait pour titre « J'arrête le cinéma ». Quelles sont les mélancolies que vous avez enfouies en vous depuis la sortie de ce livre et que vous écartez sans cesse pour continuer justement de monter des films ?
Je me rends compte que c'est de plus en plus difficile de faire des films et que de temps en temps, c'est vrai que certains coups de pompe me tombent dessus et je me dis « mais à quoi bon se défoncer la paillasse pour essayer de faire ce qu'on a en tête puisque c'est tellement compliqué ?» Et c'est vrai qu'après 6 ans de films, de projets successifs qui sont tombés à l'eau, que je n'ai pas pu tourner, c'est vrai que ça pourrait me décourager.
Mais on va parler dans quelques instants de l'année 2020 qui, elle, va réélectriser toutes les choses.
Si tout va bien, ça devrait être électrique à nouveau. Oui, vous avez raison. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de découragement qui vous poussent à raccrocher les gants, comme disent les boxeurs.
Mais vous ne les raccrochez jamais, et c'est tant mieux parce que le projet est d'importance. Avec Depardieu, on l'évoque tout de suite en compagnie de Patrice Lecomte.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Bon, cher Patrice Lecomte, je veux tout savoir. Ce tournage plus qu'excitant qui doit électriser votre année 2020 et qui va vous permettre de filmer Depardieu dans le rôle de Maigret, il débute quand ?
On tourne à l'automne prochain. Et je suis ravi pour plein de raisons. C'est un très beau projet, c'est un très beau roman. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Simenon. On a relu plein de Maigret, on est tombé sur ce Maigret qui est assez singulier, qui s'appelle Maigret et la jeune morte. J'ai proposé ce personnage à Depardieu, dont j'ignorais qu'il était un grand fan de Simenon aussi. Et ce qui va être bien, enfin bon, ça fait longtemps que je rêve de faire du cinéma avec Gérard Depardieu, on s'est frôlé, on a failli, aurait pu se faire, puis ça ne s'est pas fait, comme souvent dans ce métier. Et puis là, on s'est trouvé. Et ce qui est bien, et il y est extrêmement sensible, parce qu'il parlait très bien de Simenon, du scénario qu'on a écrit, etc. Mais je sens bien que ce qui l'excite beaucoup, entre autres, c'est à nouveau, parce que ça ne lui est pas arrivé depuis très longtemps, à nouveau de jouer un personnage aussi grand que lui. C'est-à-dire qu'il a joué Balzac, il a joué Rodin, etc. Et Maigret est aussi grand que Depardieu, et Depardieu est aussi grand que Maigret. Donc d'incarner un personnage qui a la même stature que lui-même, c'est important, oui.
Parce que Simenon a souvent été adapté au cinéma, hein, et Maigret a été incarné à la télé, par exemple, par Bruno Kremer, au cinéma par un autre monstre sacré, Jean Gabin. Donc vous savez qu'en provoquant cette fusion de Depardieu-Simenon, il va y avoir des moments de grâce.
Ben forcément, oui. Parce que quand j'ai passé du temps avec Gérard Depardieu pour qu'on se parle de tout, de rien, un peu du film, mais non, on se parlait de la vie, il y avait des silences entre nous, j'adorais. Et je voyais cet homme-là, pour qui j'ai autant d'admiration que d'affection, je voyais cet homme-là, pour la première fois de ma vie, en me disant, le type qui est assis en face de moi avec qui je suis en train de prendre un thé, c'est le type que bientôt je vais filmer. Et ce grand paysage cabossé qui est le sien, ça donne tellement envie de faire du cinéma.
Vous le quadrillez justement, je pense au début de cette conversation, l'œil du cinéaste, voilà, sur les gens, la vie, les choses. Vous étiez déjà dans votre cadre en prenant le thé avec Depardieu?
Je regardais Depardieu autrement, parce que je le regardais en me disant bientôt il va être là devant moi, je dirais moteur et on ira. Quoi. Donc c'est émouvant, oui.
Patrice Lecomte, il paraît qu'en terminale, votre prof de philo vous avait prévenu, bon, on va étudier Kant, Hegel, Schopenhauer, Spinoza, mais le plus grand philosophe, c'est Georges Simenon.
Oui, c'est vrai.
Ah bah, l'anecdote, elle paraît trop belle pourtant pour être vraie. Mais c'est vrai.
Non, c'est vrai, mais alors, ce qui était fou, c'est que donc, c'était en terminale au lycée Descartes de Tours, avant que ce professeur, M. Payot, nous dise une chose aussi inattendue. Avant, je lisais déjà Simenon, je connaissais Simenon, et ça me plaisait beaucoup. Mais à partir du moment où ce prof de philo nous a dit ça, j'ai continué à lire Simenon de plus belle, et avec un regard différent, encore plus attentif, et je me disais, page après page, roman après roman, ce monsieur Payot, prof de philo, a terriblement raison.
Alors, il y a du rire noir chez Simenon. Vous, vous êtes un rieur inquiet, Patrice Lecomte. Parce qu'il y a plusieurs de vos films, par exemple, qui trouvent leur solution finale dans le suicide. Quand même, monsieur Hir, qui décide de lâcher la gouttière et faire un grand plongeon dans le vide. Dans Le mari de la coiffeuse, la coiffeuse, elle se jette dans l'écluse. Et puis, vous nous avez quand même proposé un film d'animation qui avait pour titre Le magasin des suicides. En fait, vous exorcisez quoi?
Oui, c'est tous ces trucs-là, c'est pour m'éviter à moi-même d'enjamber le balcon.
Tout simplement.
Ben oui.
Voilà.
Parce que quand vous racontez
ceux qui en parlent sans cesse ne mettent jamais en pratique.
Jamais, jamais, jamais. Donc j'espère que vous en parlez beaucoup.
Voilà, j'en parle énormément. Bon, l'autre versant de ces états d'âme, c'est le rire, bien sûr, revigorant des bronzés. Alors les bronzés, on n'en a pas beaucoup parlé dans cette émission parce qu'en fait, ils appartiennent plus au public qu'à vous désormais. Mais simplement pour revenir sur le rire, on sait que le rire, ça se démode puisque le rire, il suit les goûts et l'évolution de la société. Donc le rire se démode. Mais pas celui des bronzés. Vous trouvez ça normal?
Je ne sais pas si c'est normal ou anormal, mais en tout cas, c'est absolument merveilleux et inespéré, en effet. Mais je ne suis pas loin de penser que dans l'humour des bronzés, cet humour qui a bien de la chance parce qu'il n'a pas pris une ride, lui, dans cet humour-là, il y a quelque chose de non débodé, parce que aussi bien le club de vacances de bord de mer que le ski, c'est quelque chose qui visuellement n'a pas changé. C'est-à-dire que le ski aujourd'hui, les combinaisons, la taille des skis, ça a un peu changé. Mais un tire-fesse, c'est toujours un tire-fesse, un télésiège, c'est toujours un télésiège. Les pente-neigeuses sont toujours les pente-neigeuses. Donc 40 ans après, l'aspect visuel est le même. Un Bermuda, des vagues, une piscine, des paréos, des colliers de fleurs pour le premier bronzé.
Oui, mais tout ce qu'on se raconte.
Tout ce qu'on se raconte aussi, oui. Enfin, ça
parce que la société, elle est en marche en permanence. Et le rire, c'est quand même une espèce de concentré d'évolution sociétale.
Oui, c'est
pour ça que ça se démode. Mais pas celui des bronzés.
C'est-à-dire que celui des bronzés n'est peut-être pas démodé parce qu'il était en avance sur son temps. Donc aujourd'hui, il est à l'heure.
Bon, Patrice Lecomte, Wim Wenders disait qu'il fait des films pour rendre le monde meilleur. Vous, pourquoi faites-vous des films?
Je fais des films parce que ça ne m'intéresse pas de garder mes émotions pour moi. Donc, comme je suis assez partageur, je fais des films pour essayer de partager mes émotions.
Je vous remercie d'ailleurs d'avoir été aussi partageur au cours de cette conversation. Et puis, on se retrouve bientôt, n'est-ce pas?
La semaine prochaine, par exemple.
Peut-être bien. Oui, ça serait top.
Je vous embrasse.
Moi aussi. Juste après l'info, Stéphane Bern et Mathieu Noël vous attendent pour Historiquement Vôtre.